J'aimerais lire ce matin un texte que j'aime beaucoup, sur lequel il m'est arrivé à plusieurs reprises d'apporter la parole, et qui se trouve à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, alors que Jésus apparaît à ses disciples après la résurrection, il est dit qu'après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes bras et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir parlé, il lui dit, suis-moi. C'est un texte que j'affectionne particulièrement parce qu'il pose la question essentielle. La question essentielle que Dieu adresse à l'homme est la question essentielle à laquelle l'homme a à répondre. Alors, il se trouve que c'est un temps un peu particulier, puisque ce week-end, j'ai terminé toute une série d'accompagnements au mariage avec Maïna et Arthur, qui me feront d'ailleurs une annonce à ce sujet-là. Et ça a été un vrai privilège, je leur ai dit. Moi, je trouve que c'est un privilège que d'accompagner un couple qui dit, eh bien, je veux faire alliance avec toi et j'ai vraiment le désir de vivre jusqu'au bout de ma vie ce chemin-là avec toi. Je vous assure, c'est quelque chose de particulier d'être à trois dans une pièce à cheminer pour accompagner un engagement de cette nature-là. Alors, moi, j'ai savouré ces temps d'accompagnement. Je pense qu'eux aussi me l'ont dit, en tout cas. Je les sais sincères. Et ce matin, alors ça, j'ai terminé ça hier, et ce matin, premier chant, l'amour de Dieu de loin surpasse. Ah, tiens, raccord. Deuxième chant, c'est à celui qui nous aime. Tiens, encore. Et le troisième chant, il m'aime, il m'a tout donné. Bon, ben, je vais aller me rasseoir, je crois que vous avez eu l'essentiel. Et le texte de l'évangile de Jean est un texte qui parle, qui pose ces trois questions. Et j'ai terminé cet accompagnement hier. Ça veut dire que maintenant, ils sont prêts à être mariés. Là, ils sont partis pour les 50 années qui viennent. C'est parfait. Non, non. L'accompagnement est terminé. Le chemin commence pour eux, comme pour Simon-Pierre. Et alors que je relisais mes notes, que je travaillais dans mon bureau hier soir vers 21h, le téléphone a sonné. Je dis, tiens, qui peut m'appeler à cette heure-ci ? J'étais un peu inquiet parce que j'ai un de mes frères qui est à l'hôpital, donc je me disais, est-ce que c'est quelque chose comme ça ? Puis j'allume, c'était une séance WhatsApp, et c'était Maëlys, ma fille, qui était en vacances avec nous toute la semaine, et qui est partie vendredi avec nos deux petites filles, on parle de nos petits-enfants ce matin, on est en famille, hein. Et la petite dernière, on a Erin, qui a 6 ans et demi, et puis on a Isia, qui a environ 5 ans. Et ma fille Maëlys nous appelle, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Elle me dit, oui, j'ai un problème avec ta petite fille, avec Isia. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Bah écoute, c'est le moment du coucher, on était en train de se préparer et elle était envahie par une grande tristesse. Mais vraiment, elle était pas bien, elle était. Elle dit, ah bon, alors elle a dit à sa fille, à Isia, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, dis-moi. Et elle sentait qu'elle avait besoin d'être rassurée. Puis quand elle lui a posé cette question-là, en fait, Isia lui a dit, écoute, voilà, j'ai ça en moi. Et puis il m'a dit, oh là, on va appeler Papili. Et là, elle m'a appelé. Et puis là, elle m'a dit, écoute, elle n'est pas bien. Parce qu'au cours de la semaine, pendant leurs vacances, Isia a vu Papili qui faisait un bisou, qui embrassait Mamili. Non, ça vous arrive jamais chez vous? Non? Jamais? Non, voilà. Et quand elle m'a vu embrasser ma femme, elle a eu une réaction très simple. Ils sont amoureux! Ils sont amoureux! Et puis moi, quand je l'ai entendu, je lui ai dit « Oh non, 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 on n'est pas amoureux du tout !» Alors ma petite fille a dit « Ah bon, mais alors pourquoi tu l'embrasses? Pourquoi vous êtes mariés ?» Puis moi, je lui ai dit, j'aime bien faire des blagues, je lui ai dit bah, « C'est simple, c'est parce qu'en fait, Papili était très pauvre quand il était jeune. Et donc, comme il était très pauvre, il a dit « Je vais épouser une Suissesse parce que toutes les Suissesses sont riches !» Voilà, c'est pour ça que je l'ai embrassée, puis qu'on est ensemble. Et hier soir, à 21h, elle était triste, triste. Puis quand sa mère lui a dit, mais pourquoi triste? Parce que Papili et Mamili ne s'aiment pas. Alors, j'ai dû faire venir ma femme dans mon bureau, et puis il a rassuré notre petite fille qu'on se fasse un bisou devant elle, en disant, mais non, c'était une blague. J'aime pas les blagues à Papili. Est-ce que tu m'aimes? C'est pas à vous que je pose la question pour moi, mais c'est la question que Christ pose et que ce texte-là, ce matin, nous est posé par Dieu. Le texte nous renvoie à cette même question essentielle, mais les protagonistes sont Christ et chacun d'entre nous. Est-ce que tu m'aimes? Parce que c'est bien là l'enjeu central et essentiel de la vie d'un être humain sur cette terre. Il n'y a pas d'autre question plus primordiale, plus essentielle que celle-là, à laquelle tu as à répondre. Et ta vie ici-bas, mais aussi ton éternité, dépend de la réponse que tu donneras. Est-ce que tu m'aimes ? Répondre à l'amour manifesté par Dieu et pouvoir lui répondre « Je t'aime ». Parce que la bonne nouvelle, Évangile en grec, c'est que Dieu nous a cherchés, il nous a trouvés et il nous a dit que son amour était là en la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé qui a été livré au clou de la colère. Je t'aime, dit Dieu, regarde. Au-dessus du mont Golgotha, une voix aurait pu descendre du ciel pour dire à chacun d'entre nous, voilà comment je t'aime. On pourrait même dire, voilà combien je t'aime. C'est le prix que je paye pour te dire mon amour. Alors, cette question qui est posée par Christ à la fin de l'évangile de Jean, Jean est un témoin de la première heure. Il a accompagné Jésus, mais il a accompagné aussi Pierre. Il fait partie du cercle, je dirais même, du cercle très restreint des 12 apôtres, mais même du cercle ultra restreint parmi les 12, des 3 qui étaient très très proches de Jésus, Pierre, Jacques, Jean. Et il était aussi le bien-aimé de Jésus, c'est-à-dire celui, le petit chouchou, parce que c'était le plus jeune. Donc, lorsqu'il relate cette histoire, ce récit dans l'Évangile, il est aussi celui qui relate les rencontres de Jésus avec les apôtres au tout début. Et en ce sens-là, Jean, au début de l'Évangile, de son Évangile, au chapitre 1, va raconter l'histoire, verset 40, André, frère de Simon-Pierre, je crois qu'il doit y avoir voilà, aussi la référence. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'appelle André et qui suit Jean le Baptiste. Et puis, découvrant sur le chemin de Jean-Baptiste Jésus, l'anneau de Dieu, il va rencontrer son frère Simon, qui s'appellera Pierre plus tard. Et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce qui signifie le Christ. Et il le conduit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, rencontra Philippe, il lui dit « Suis-moi ». Et Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël, il lui dit « Nous avons trouvé ». Et vous voyez en cascade ceux qui ont trouvé Jésus. Eh bien, il y a eu d'abord André. André est allé chercher son frère. Simon est venu voir Jésus. Et ils ont été trouvés. De la même manière que certains avaient trouvé Jésus, eux ont été trouvés. Dans ce passage de l'évangile de Jean, du verset 19 au verset 41, 5 fois l'évangéliste utilise le verbe « eruisko » qui veut dire « trouver ». L'amour de Dieu nous cherche. Et il se laisse trouver. Alors, j'ai accompagné un couple de fiancés. Je crois qu'ils se sont trouvés. Alors, ils se sont trouvés. Et je pense aussi qu'ils se sont trouvés parce qu'ils se sont cherchés. Dans un amour humain, à un moment donné, on cherche ce qui nous semble le meilleur pour nous-mêmes, l'autre. J'ai ouvert ma porte hier soir, je me dis « Ah ouais, ils se sont bien trouvés ». Il y en avait un qui avait les cheveux rouges et l'autre qui avait les cheveux rouges. Je me dis « Tiens, ils se sont trouvés !» Dieu aussi nous cherche. Depuis la Genèse, la séparation de Dieu d'avec l'homme, parce que l'homme a décidé de vivre son chemin sans lui, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit que dans le jardin d'Éden, Dieu a posé cette question. Où es-tu ? C'est-à-dire qu'il cherchait l'homme et la femme. Et depuis, il n'a de cesse de chercher l'être humain pour le rencontrer. Là, dans ce récit, il est dit qu'il a été trouvé, l'apôtre Pierre. Et puis, quand il arrive devant Jésus, Jésus lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et en fait, il y a un changement de nom. On dit « Tiens, il vient à peine d'arriver, il se rencontre, et tout à coup, il dit « Ah ben, on va changer ton nom. » Et pas n'importe lequel, parce qu'il s'appelle Simon, c'est-à-dire un des prénoms les plus intéressants dans le peuple d'Israël, puisque c'est le prénom d'un des 12 fils de Jacob qui est devenu Israël, c'est-à-dire une des 12 tribus. Simon, c'est pas mal ça. Le nom d'un patriarche, fils de Jacob. Et il lui dit, tu es Simon, tu t'appelleras Képhas. Pierre, roche. Attends, Seigneur. Simon, moi je préfère. Hein. Caillou, c'est pas tellement terrible comme nom. Hein, c'était pas un prénom jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça que l'apôtre Jean, l'évangéliste aussi, a tendance à préciser en disant « Oui, il lui a donné un autre nom et il lui a donné le nom de Céphas, ce qui signifie Pierre, donc Pétros. » Alors Pétros, on se dit « C'est pas mal, mais Képhas, ça n'existait pas. » Tout à coup, il lui dit « Tu t'appelleras Caillou. » Oui, mais parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y avait déjà dans la perspective de Jésus le fait que Pierre serait vraiment cette pierre, une des pierres sur lesquelles l'église se bâtirait. Et puis, ce nom nouveau, cette nouvelle identité, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que l'amour que Jésus a pour cet homme-là, ce n'est pas un amour superficiel. Un amour profond, riche, au point de donner à celui qui est en face de lui une nouvelle identité. Ça renvoie à l'Apocalypse. où il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, une nourriture différente, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire qu'il y a déjà, dans la rencontre entre Jésus et Pierre, ce message, je vais te donner une identité nouvelle. Bon, moi, c'est souvent quand on se rencontre ou on rencontre quelqu'un, on dit, bah, vous vous appelez comment ? Quel est votre nom ? Puis là, souvent la question, c'est, qui suis-je ? Et vous faites quoi dans la vie ? Alors, Pierre, s'il rencontrait Jésus, à ce moment-là, certainement, il dit, oh, bah, moi, je m'appelle Simon, et puis je suis pêcheur. Voilà, de Tibériade, à côté, avec ma famille, mon père, mon frère, etc. Ça, c'est mon identité. La rencontre avec Christ, avec un Dieu qui trouve l'homme, c'est une rencontre qui change en profondeur celui que je suis. Si je reste avec la même identité, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes choses qu'hier, avant-hier, et ce que porte ma famille, à quoi sert cette rencontre ? Un des premiers versets que nous avons travaillé dans la préparation au mariage, et que je travaille régulièrement avec tous ceux qui entament cette... C'est « tu quitteras ton père et ta mère ». Genèse 2. « Tu quitteras ton père et ta mère ». Ça veut dire « tu quitteras, tu lâcheras prise sur ton identité d'hier, sur ce qui t'a été transmis ». Parce qu'il y a là, dans l'alliance que tu vas faire... dans le cadre de l'union, du mariage, de ce lien que tu veux contracter avec un homme, avec une femme, en tant que couple, eh bien, il y a une identité nouvelle et tu quitteras ce qui t'a été transmis. Waouh, ça, c'est pas facile de quitter ce qui a été déposé en nous. Là, c'est ce qui est proposé à Pierre. Tu vas quitter ton identité. Ah ouais, mais je suis un juif. Simon, c'est pas mal quand même. Je suis un des descendants des 12 tribus d'Israël. C'est une identité. Ouais, mais je vais te donner un nouveau nom que nul n'a porté. Au caillou, Seigneur, caillou, c'est pas terrible. T'as pas autre chose à me proposer comme identité ? Et peut-être que c'est aussi notre réaction quand Dieu nous dit, voilà ce que je veux te donner comme identité dans le royaume de Dieu. Ouais, mais... il n'y a pas autre chose. Non, voilà l'identité qui sera la tienne. D'accord, Seigneur. Je donnerai un nom nouveau que personne ne connaît. Quelque chose qui est original. Vous savez quoi ? Quand je me regarde dans la glace, quand j'étais jeune, je disais, ah, si je pouvais ressembler à Robert Redford. Pas avoir les yeux bridés, la peau jaune, et puis qu'on repère que je suis... du sud-est asiatique. Et puis maintenant, je me regarde dans la glace et je dis, c'est chouette, je suis une œuvre originale. Je ne suis pas une copie d'eux. Est-ce que je peux me dire qu'en Christ, je peux devenir une œuvre originale ? Waouh ! Alléluia ! Lorsque l'évangéliste parle de l'amour, il y a son Marc, compagnon de Paul, qui dans son évangile cite ce verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà la dimension de l'amour que j'attends voir et exister dans ta vie. Et puis, il y a le scribe qui lui avait dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Qui lui répond, bon, maître, t'as bien dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre, et que l'aimer de tout son cœur, toute son intelligence, de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est pas mal comme réponse. Oui, mais est-ce que tu vas le vivre ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas vivre dans ta vie ? L'amour dont nous aimons Dieu est celui dont nous devons aimer aussi notre prochain. Y compris ma femme, Seigneur ? Est-ce qu'elle fait partie des prochains ? Y compris mon mari, Seigneur ? Est-ce qu'il fait partie des... Oui, ben ça commence là. Pour qu'il y ait une relation, C'est Claude Trémontant, un professeur du Collège de France que j'ai découvert il y a 40 ans et théologien catholique, qui disait « Il faut que deux éléments choisissent de se lier. » Et la nature du lien peut être très différente. Ce qui apparaît, c'est ce qui apparaît dans les relations humaines, familiales, de couple, mais de manière tellement imparfaite. Et ce que Dieu veut, c'est établir une relation avec toi. Est-ce que tu es d'accord ? Il n'y a pas de relation sans qu'il y ait un désir profond, l'un et l'autre, de construire cette relation. T'en es où ? Tu en es où dans cette relation que Dieu veut établir avec toi ? Oh. J'arrive à un âge où je regarde en arrière et je suis parfois triste des relations qui ont disparu et qui me semblaient tellement fortes à un moment donné dans ma vie. Des amis, des proches, parfois des membres de la famille, qui comptaient énormément. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois que certaines relations ont disparu. Il y en a certaines, c'est un peu naturel. Une de mes meilleures amies au collège biblique était japonaise. Le jour où on s'est séparés, après 2 années passées à étudier l'écriture, on prenait du temps ensemble. Quand on s'est séparés, je dis vraisemblablement, et on se l'est dit au moment de se séparer, vraisemblablement, on ne se reverra que dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Je ne l'ai jamais revu. Mais il y en a d'autres qui étaient très très proches. Et la relation est partie en déliquescence. Autant de leur fait que du mien. Ça veut dire qu'une relation, si on ne l'entretient pas, eh bien, elle disparaît et au fur et à mesure. Est-ce que ma relation avec Dieu et avec Christ est de cette nature-là ? Ou est-ce que je l'entretiens ? Jésus pose cette question à Pierre, « M'aimes-tu ? » Alors peut-être que ce matin, dans cette salle, Christ pose la même question. On a chanté les 3 premiers chants, on a dit qu'on l'aimait. C'était juste parce que c'était des chants, parce que Michel les a proposés, ou bien est-ce que c'est la manifestation et la proclamation de ce qu'il y a dans mon cœur ? La première fois que celle qui est devenue ma femme m'a dit « je t'aime », je vous assure, j'ai répondu vite. Je ne voulais pas passer à côté de l'opportunité de lui dire. Bon, après, elle m'a fait attendre 3 ans. Je le dis parce qu'elle n'est pas là. J'ai répondu rapidement. Je pense que quand on est amoureux, on est empressé de répondre à l'amour de l'autre. Ce matin, Christ pose cette même question. Est-ce que tu m'aimes comme à Pierre ? On a un peu le sentiment dans ce récit que Jésus pose 3 fois cette même question. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus énervant que lorsqu'on pose une question, ne pas avoir de réponse. Mais il y a aussi quelque chose de plus énervant que ça, c'est quand on a répondu que la personne vous repose la question une deuxième fois et vous la repose une troisième fois. Alors, bien sûr, il y a certains qui ont des problèmes auditifs. Oui, tu entends bien ? Il a oublié ses appareils. Jésus pose 3 fois cette question. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? C'est très étrange parce que si vous vous souvenez, 3 ans auparavant, première rencontre, Jésus dit « Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Képhas, Pierre, Pétros. Tu seras Pierre. » Et puis là, au lieu de l'appeler Pierre, il l'appelle Simon. On se dit, mais alors, il a oublié comment il lui avait donné un nouveau nom. C'est quoi cette histoire ? En fait, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'il ne s'adresse pas à celui qui a le nom d'une fonction, celle d'être une pierre pour l'Église. Hé, le pasteur ! Hé, le pasteur de l'Église de Kevin ! Tu m'entends ? Non, non. Quand Dieu me parle, il me dit, Jean-Marc. Il ne s'occupe pas de ma fonction ou du rôle que je joue, etc. Et parfois, on aimerait que Dieu s'adresse à nous dans la fonction que nous habitons. Et toi qui prophétises, et toi qui es dans la louange, etc., etc. Non, il nous appelle par notre nom, mais notre nom personnel, Simon. Simon, fils de Jonas. C'est-à-dire qu'en plus, il l'inscrit dans sa filiation. Pas n'importe lequel. Vous vous rappelez, c'est Abraham, dans le judaïsme, il est dit que Abraham, quand Dieu lui a dit « Écoute, donne-moi ton fils », que la première réponse d'Abraham, c'est dit « Lequel ? J'en ai deux. Celui que tu aimes. Ah, mais je les aime tous les deux !» Celui qui se nomme Isaac. Ah, d'accord. Ça, c'est la manière des Juifs de dire. Il a essayé de négocier et de se dire si elle pouvait ne pas tomber sur Isaac. Et parfois, on négocie aussi un peu pour dire, Seigneur, c'est vraiment à moi que tu parles. Ce matin, il y a eu plusieurs paroles prophétiques. Est-ce que c'est vrai? C'est moi? Moi ou peut-être la rangée de derrière, peut-être? Non? T'es sûr, Seigneur, c'est à moi? On met du temps à réagir. On ne veut pas forcément se sentir concerné. Simon, fils de Jonas. Et là, Pierre, il n'a pas eu de choix. Il dit, oui, bon, c'est moi alors. En plus, il l'avait pris à l'écart, pas à côté des autres disciples. Et il lui dit, voilà, est-ce que tu m'aimes? On ne peut pas séparer ce texte de l'épisode du reniement de Pierre. En fait, les deux textes sont des textes miroirs. Il y a eu trois reniements, il y aura trois questions. Et ces trois reniements sont couverts par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, le Christ ressuscité. Entre les deux, il y a la croix. Entre les deux, il y a le pardon et la rédemption. Entre le reniement de Pierre et ces trois questions, il y a la possibilité pour Pierre de dire « Les fautes que j'ai commises sont effacées et j'ai le droit de te dire je t'aime. » Mais ce texte-là nous montre notre résistance quand nous nous sentons coupables et que cette culpabilité nous empêche d'être au bénéfice plein et entier de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Vous savez quoi ? Le sentiment de culpabilité en tant que chrétien, c'est du péché. Parce que se sentir et entretenir le sentiment de culpabilité, c'est nier l'œuvre et l'efficacité du sacrifice de Christ sur la croix. Alors, on peut dire, ah oui, mais Seigneur, c'est aussi une manière tellement belle de te dire à quel point je regrette, je me sens coupable, et puis ce que j'ai vécu dans le passé, j'en ai tellement conscience. Et il y a des hommes et des femmes qui entretiennent cette culpabilité pendant des mois, des années, voire une vie entière, et qui ont le sentiment que c'est une œuvre personnelle d'expiation. Oui, c'est personnel. Ce n'est pas l'expiation de Christ à la croix. Et on a le sentiment qu'on rajoute quelque chose par notre souffrance, nos regrets, etc. Non. Est-ce que tu m'aimes ? Ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te dire. Lorsque Christ s'adresse à Pierre, il lui donne cette possibilité. Et c'est vrai que la situation des deux textes miroirs, les reniements de Pierre à trois reprises. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre, juste avant qu'arrive le temps du dernier repas, devant les murs de Jérusalem, Jésus pose cette question, « Que dit-on de moi ?» dans les environs, et les uns disent, « Oh, on pense que tu es une résurrection de Jean-Baptiste. » Absurde, c'était son cousin. D'autres pensent que tu es peut-être Élie, qui est revenu d'entre les morts, etc. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Puis là, les disciples, ils ne savent pas trop. Et l'apôtre Pierre dira, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Vous savez qu'une telle proclamation, par un pêcheur, qui pêchait les poissons, En Israël, c'était digne d'une lapidation. Personne, hormis le clergé, les religieux, ne pouvait dire de quelqu'un « C'est le Messie que nous attendons depuis des siècles et des siècles ». Or, par la foi, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est l'Esprit Saint qui t'a fait dire ça.
Waouh !
Là, Pierre, il a dû se dire, il a dû rajuster sa cravate, comme moi à l'instant, en disant « Eh, regardez-moi, les gars hein ! Je suis pas n'importe qui !» Sauf qu'après, Christ expliquera ce qui va se passer, qu'il va rentrer, qu'il va être trahi, qu'il va être crucifié. Et là, Pierre dit « Mais moi, je ne permettrai pas !» Arrière de moi, Satan. Il y a eu, là aussi, deux expériences. Une expérience par le Saint-Esprit et une expérience par son ego, je. Et si vous lisez les textes qui suivent, vous rendrez compte que, dans les paroles de Pierre qui suivent, le ego aimi, c'est-à-dire moi, je, intervient jusqu'à l'entretien avec Jésus. Au moment de l'entretien, il passe au « tu es ».« Tu es ». C'est plus « je suis », c'est le « tu es ». C'est-à-dire qu'il passe d'une position où c'est son intelligence, sa force, sa volonté, ses désirs qui lui tracent le chemin de ce qu'il doit vivre et être. Il en va de même pour nous. Nos résistances reposent sur notre ego, haïmi. Moi, je suis capable. Moi, je peux. Moi, j'ai décidé. Et en fait, il s'agit de passer de cela à dire « Tu es le Christ. Tu es Seigneur. Tu es ressuscité. Tu as accompli ton œuvre de pardon. » L'amour est au centre de la relation que Dieu veut établir avec moi. Et cet amour-là, ce n'est pas n'importe quel amour. En fait, quand Jésus prend Pierre à part, il est là pour le guérir de son passé. Il est là pour lui dire, écoute, tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas. Vous vous rappelez, Pierre, devant les autres disciples, les 11 autres. Il dit, si cela te laisse tomber, moi, je ne serai pas dans cette... Et donc, la première question de Jésus à Pierre à l'écart, est-ce que tu m'aimes plus que les autres qui sont sur la plage en train de grignoter le pique-nique? Est-ce que tu m'aimes plus que... Souvenir de... Si eux te laissent tomber, moi, je ne te laisserai pas. Alors, est-ce que tu m'aimes plus qu'eux ? C'est un rappel de la situation que Pierre a provoquée par à la fois sa proclamation qu'il ne laisserait pas tomber Jésus et en même temps son reniement. Alors, on peut dire, est-ce que Jésus est en train de remuer le couteau dans la plaie ? Pas du tout. Entre les deux, il y a eu la croix. Je le rappelle. Et cette croix donne la possibilité à Pierre, s'il le désire, de dire « Je me suis planté. » Entre ce que je voulais, ego aimi, ce que je suis, et ce que j'ai fait, il y a un écart. Et peut-être que dans ta vie et dans la mienne, nous sommes plombés par les écarts qu'il y a entre notre volonté, notre désir est ce que nous faisons. Et je ne fais pas ce que je voudrais, dit l'apôtre Paul. Alors peut-être que dans ta vie, tu es peut-être aussi avec cet examen qui dit ben, ce que j'ai voulu et ce que j'ai fait, il y a un fossé.
Ouais.
Et tu peux rester dans cette culpabilité du passé. Tu peux l'entretenir et en faire même un credo, mais c'est du péché. C'est nier l'œuvre de la grâce, le pardon de Christ qui te dit, est-ce que tu m'aimes ? La question, ce n'est pas ce que tu voulais, ce que tu as fait. l'écart entre les deux. La question, c'est maintenant, est-ce que tu m'aimes ? Mais je regrette tellement. Et vous savez, il n'y a rien de plus énervant quand on fait abstraction de l'amour de l'autre. Mais attends, tu m'aimes, oui, d'accord, mais je regrette tellement ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas ce que je te demande si tu m'aimes. La première question que pose Jésus à Pierre, c'est « Est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé ?» C'est-à-dire, il y a trois mots pour aimer, hein, vous le savez. C'est l'amour eros, érotique, physique, l'amour philéo, avoir de l'amitié, et l'amour agapé, qui est l'amour le plus total et le plus entier. Et Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé, total, plein, entier ? Se souvenant de ses fautes, Pierre dit, Seigneur, je t'aime bien. C'est la traduction. Il y a plusieurs traductions qui essayent de rendre cette différence entre « est-ce que tu m'aimes ?» et la réponse de Pierre. Il y avait une traduction, c'était « j'ai des sentiments pour toi, je t'aime bien, j'ai de l'amitié. Hein ?» Messieurs, est-ce qu'il y en a qui aiment le danger et le risque ? Il y en a qui se disent « je sens le piège venir ». Je ne me mouille pas. Parce que si vous aimez le danger et le risque, c'est ce que je disais aux patientes avec lesquelles je lisais ce texte-là à Cœur du Dos, je disais, imaginez que votre conjoint, votre mari, est là et que dans un moment de tendresse, vous tourniez votre regard vers lui et que vous lui posiez cette question. Est-ce que tu m'aimes ? Et que le retour se fasse et que vous disiez à votre compagne, à votre femme, « Oh, chérie, je t'aime bien. Essayez, messieurs, et vous verrez que le résultat ne se fera pas attendre. Va manger ta soupe dans le salon ou dans la cuisine, on va prendre un petit peu de distance. » C'est ce que fait Pierre. C'est ce que fait Pierre. Parce que sa honte, son sentiment de culpabilité est trop grand par rapport à la question. Mais l'invitation de Jésus, c'est une invitation de grâce. Et elle est totalement négligée par Pierre. Est-ce que dans ta vie, tu es aussi dans cette position de négliger la grâce qui t'est faite d'un Dieu qui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Compte tenu de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai eu comme attitude, de ce que j'ai... Je ne peux pas te dire je t'aime. Et Jésus pourtant pose la question. Et ce n'est pas un piège, tu as le droit. Est-ce que tu veux te saisir de la grâce qui se trouve en moi ? Alors il fait une fois, puis Jésus dit, bon ben prends soin de mes brebis. C'est-à-dire, reste dans ta fonction, puisque c'est celle que je t'ai accordée. Elle n'est pas... D'ailleurs c'est intéressant, ça veut dire que quelque part, il dit à Pierre, je ne renie pas l'appel que je déposais sur ta vie. Et parfois, c'est très étonnant de voir dans l'Église des personnes qui ont pu se planter et qui restent enfermées dans leur sentiment de culpabilité, voire même en retrait par rapport à leur appel, à ce que Dieu leur a dit, « Voilà ce que j'ai pour toi, voilà ce que j'attends de toi dans ta place au milieu de l'Église, mais aussi au milieu de ce monde. » Et puis l'autre qui dit « Mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit. » Et puis je ne suis pas bon, puis j'ai été nul, et puis ceci. Et on entretient cette culpabilité. Je me dis que ça va prendre du temps. À la fin des temps, quand Dieu enlèvera l'Église et rassemblera ceux qui sont morts en lui, ça va prendre un certain temps le jugement des chrétiens, vous savez ? Parce que je pense que on va avoir des comptes à rendre sur ce qu'on n'a on a pas fait ou pas dit ou pas été. On argumentera, on dira, oui, mais Seigneur, tu te rends compte, si je n'ai pas pu être, faire ou dire, c'est parce que j'avais conscience de mon péché. Ah ouais. Et la croix, elle sert à quoi ? Elle a servi à quoi dans ta vie ? Donc je pense qu'il y aura une longue file d'attente, comme chez le boulanger, parce que ça va prendre du temps, rien qu'avec moi. Vous savez, je pense qu'avec moi, le Seigneur, je le dis parfois, waouh, il va y avoir des choses, des pendules à remettre à l'heure. Et il me dira, bah, Jean-Marc, ouais, ça... oui, mais Seigneur, quand même, il y avait des raisons. Hein. Vous me connaissez, je sais argumenter. Hein. Alors ceux qui seront derrière, hein, ils vont attendre. La grâce est là pour chacun de ses enfants. La deuxième fois, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Allez, je te retends la perche. Et Pierre reste enfermé dans cette incapacité à se dire. Et pourtant, il est d'Israël. Dans le Deutéronome, il y a une parole qui est étonnante. Au chapitre 30, verset 16, dans le Deutéronome, Dieu dit à son peuple, Israël, donc aussi à Pierre, « Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel. » Formule tout à fait classique par rapport à l'amour. Non ? Moi, je l'ai dit au jeune couple qui s'est préparé, j'ai dit, « T'as le droit de dire à ta femme, je t'ordonne de m'aimer. » Et à la jeune femme, je lui dis, « Mais t'as le droit de dire à ton mari, tu es obligé, je te commande de m'aimer. » Non, non, j'ai pas fait ça, je vous rassure. Mais pourtant, dans le Deutéronome, il y a cet ordre. « Je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. » Ce commandement d'aimer, c'est une manière de dire, si l'amour est au centre de notre relation, alors tu vas vivre et te multiplier, tu vas être béni là où tu es. Et j'ai envie de dire que c'est un commandement essentiel. Il y a peu de commandements qui soient aussi importants, pour ne pas dire aucun, que celui d'aimer. Est-ce que tu entends Dieu qui te dit « Je te commande de m'aimer » parce que tout ton profit est là. Ta bénédiction est là. J'insiste souvent dans la préparation au mariage sur le fait que l'amour, c'est une question de volonté, pas seulement de sentiment. Souvent, on commence, et je l'ai fait avec Arthur et Maïnage. Première question, c'est pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi? Et c'est une question que j'ai reprise d'un prêtre qui a fait ses préparations au mariage et puis qui posait cette question-là. Puis vous savez quoi, 90% les couples disent, mais parce qu'on s'aime. On s'aime. Là, je n'imite pas Maïna. Hein. Non, c'est... Mais ils m'ont répondu ça, parce qu'on s'aime. Ah ouais, d'accord. Et ce prêtre répondait toujours, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et moi, j'aime cette formule. S'aimer de sentiment d'amour, ce n'est pas suffisant. Il faut vouloir s'aimer. Avoir le désir de s'aimer. Mettre toutes ses forces dans le fait d'aimer l'autre. Alors, quand Jésus pose la question à Pierre, il pose la question, alors est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Tu as le droit, la grâce est là, dis-le, rentre dedans. Eh bien, il va faire comme parfois certains d'entre nous, certaines d'entre nous, ben non, tu sais, je t'aime bien. Ok. Et la troisième fois, il y a cette chose étonnante, c'est que Jésus dit à Pierre, bon, est-ce que tu m'aimes bien? En clair, est-ce que tu as de l'amitié? Est-ce que tu es philéo avec moi? La troisième fois, et c'est pour ça que dans le texte en français, on a « Et Pierre fut tout triste ». Tout triste, parce que Jésus a rabaissé. Parce qu'en fait, la réponse de Pierre, c'était du « oui-non ». « Oui, je t'aime. Non, je ne peux pas le dire. » Or, ce que Jésus attend de Pierre et de moi et de toi, c'est que ce soit un oui, oui. Dans le manuel que j'utilise pour la préparation au mariage, c'est que ton oui soit oui. Et Pierre, il est dans un oui-non. Oui, je voudrais bien te le dire, non, je ne peux pas. Et est-ce que dans ta vie, il en va de même? Est-ce que tu as le sentiment que tu ne peux pas dire oui à cette question simple de Dieu et qui est le fondement de la bénédiction et de la vie pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères, est-il écrit dans l'évangile de Luc. Reviens de cette position stérile. Alors, la troisième fois, le roc, la pierre, qui devait être le fondement de l'Église, n'a pas pu dire « Je t'aime ». Alors, je vous invite à pouvoir le dire à Christ, dans le secret de votre chambre, de pouvoir le lui dire, quel que soit votre état, quel que soit votre passé, quelles que soient vos blessures, parce que le travail qu'a fait Jésus avec Pierre, c'est de vouloir guérir son passé proche. Mais il peut guérir ton passé proche et ton passé lointain. Tout ce qui, en toi, peut t'empêcher de dire « Je t'aime ». Alors, je terminerai juste avec ce poème. Je n'ai plus l'auteur, mais il me semble que ça doit être Salomé, Jacques Salomé. Mais il me semble, hein, je ne suis pas certain. Et c'est un poème qui dit ceci. « Je t'aime dans mes rêves. Je t'aime dans ma réalité. » Je t'aime au-delà de tous mes désirs. Je t'aime dans mes attentes. Je t'aime dans mes contradictions. Je t'aime aussi dans mes silences. Je t'aime dans mes insuffisances. Je t'aime dans mes absences. Et ce n'est pas suffisant car il faudrait t'aimer bien au-delà de mes limites et de mes manques. Bien au-delà de toutes les barrières et de tous les conditionnements de cette existence-là dans laquelle je me sens trop emprisonné. Il me faudrait t'aimer avec l'homme accompli que je ne serai jamais. Je ne serai jamais assez parfait pour atteindre l'exigence de l'amour ou la compréhension de l'amour de Dieu. Mais dans mon imperfection, est-ce que je peux dire à Jésus qui me pose cette question, est-ce que tu m'aimes ? Seigneur, je t'aime. Inclinons nos têtes et juste quelques secondes, laissons véritablement notre cœur se placer devant celui qui a manifesté son amour pour nous. Inclinons nos têtes et entendons ce Seigneur qui se place devant nous comme devant Pierre. Il connaît ta vie, ma vie. Il sait mes erreurs, mes fautes. Il sait aussi le désir sincère qu'il y a en moi. Et là, maintenant, je veux répondre à sa question, celle qui retentit ce matin depuis le début d'échange jusqu'à maintenant. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes ? À toi de répondre, là, maintenant, dans ton cœur, à celui qui t'as aimé plus que tout et de toute éternité.